Les portes du temple sont fermées, vous ne pouvez pas sortir. Et donc aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans la période particulière des juges dans l'Ancien Testament et de nous intéresser plus précisément au dernier d'entre eux, j'ai nommé Samson. Alors quand on entend le nom de Samson, on pense à sa force physique hors du commun, à ses batailles contre les Philistins, et on le voit avec sa chevelure foisonnante telle qu'il est représenté sur les livres d'enfants. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un épisode de sa vie et surtout sur une parole prononcée par lui qui montre toute la complexité du personnage auquel nous ressemblons bien plus qu'on ne pourrait le penser. Et je vais donc lire dans le livre des Juges, au chapitre 14, les versets 1 à 7. Donc Juges 14, versets 1 à 7. Samson descendit à Timna, et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère : « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent : « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père : « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme, et elle lui plut. Et j'ajoute à ce passage un verset qui est le dernier du livre des Juges et qui se trouve au chapitre 21, verset 25. Et voici comment se termine le livre des Juges avec cette parole. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Jusqu'ici, parole du Seigneur. Alors la période du gouvernement des juges, et j'apporte tout de suite une précision sur le terme juge, puisque à l'époque de l'Ancien Testament, le juge n'était pas comme aujourd'hui celui qui dit le droit et qui fait justice. Les juges à l'époque de l'Ancien Testament étaient des chefs de clan, des dirigeants. Et cette période, elle est particulière et se caractérise par une grande instabilité et une situation pour Israël qui va aller de mal en pis durant toute l'histoire. Elle finira d'ailleurs par le chaos. L'unité du peuple sous Josué a laissé la place à une sorte de confédération de tribus qui se sont installées dans le pays promis aux ancêtres d'Israël. Et à partir d'une situation d'unité et de solidarité entre les tribus, eh bien cette situation, elle va évoluer vers une situation de friction, de tension, voire de véritable rivalité entre ces tribus. Et pourtant, cette période qui s'étale sur 200-300 ans selon les datations et qui est donc une période relativement courte quand on sait que les patriarches vivaient plus de 100 ans, et d'ailleurs Josué est mort à 110 ans, eh bien cette période courte commençait sous de bons auspices. En effet, guidé par Josué, le peuple d'Israël avait conquis le pays promis à leurs ancêtres. Mais à l'instar du récit du début de la vie humaine dans le livre de la Genèse, le récit du peuple de Dieu dans le livre des Juges commence par une désobéissance. En effet, lorsque le peuple pénètre dans le pays, il n'obéit pas entièrement à ce que l'Éternel lui avait ordonné au moment de la conquête, faisant plutôt ce qui lui semblait bon. En effet, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne pas conclure d'alliance avec les populations locales, de détruire leurs autels et de détruire leurs idoles. Ce que n'a pas fait le peuple. Le livre des Juges commence donc par une bénédiction, à savoir l'installation du peuple d'Israël dans le pays promis, mais une bénédiction incomplète en raison de cette désobéissance, bénédiction incomplète parce que le peuple d'Israël, bien que dans le pays promis, devra cohabiter avec les Cananéens et les populations locales. Toute l'histoire du gouvernement des juges va donc consister à se protéger contre ces populations locales, voire à se défendre contre elles en les combattant. Alors que la situation de départ consistait à avoir le peuple d'Israël conquérant le pays avec quelques enclaves cananéennes, eh bien à la fin de la période des juges, on se retrouvera dans la situation inverse, à savoir quelques enclaves des tribus d'Israël au milieu des Cananéens et des autres populations locales. Pour n'avoir pas chassé complètement les Cananéens et anéanti leurs dieux, leurs idoles, lors de la conquête, le peuple d'Israël se fera pourchasser à son tour. Mais malgré tout, la providence et la fidélité de Dieu s'accomplissent, à savoir que Dieu ne rompt pas son alliance avec son peuple malgré sa désobéissance. Il ne chasse pas non plus le peuple qui occupe bien le pays promis. Cette désobéissance ne remet donc pas en cause l'alliance de Dieu avec son peuple et toutes les promesses qui vont avec. Alors, durant cette période, vont gouverner 12 juges, d'Othniel à Samson, qui sera le dernier, en passant par d'autres juges bien connus, tels que Déborah et Gédéon. Cette période sera marquée par une série de victoires, de défaites aussi, lors des batailles. Et au cours de l'histoire de la période des juges, je vous ai dit que la situation irait de mal en pis pour Israël, qui connut beaucoup de victoires au début de la période, mais beaucoup de défaites vers la fin. On arrivera d'ailleurs même à une situation de quasi-chaos, avec des Lévites qui font n'importe quoi, qui ne respectent plus leur rôle sacerdotal, voire même le viol de Gibéa, avec un peuple qui se conduit comme à Sodome et Gomorre. À noter que ce cycle descendant se perpétue toujours dans le même cadre. Péché ou désobéissance, oppression de la population locale, pleurs du peuple d'Israël et délivrance de Dieu. Mais comme je l'ai dit, même si Dieu est compatissant, le peuple d'Israël connaîtra de moins en moins de victoires et de plus en plus de défaites. On voit durant tout le livre que le peuple suit les juges qui le dirigent et qui apparaissent donc un peu comme des bergers, puisqu'ils dirigent et protègent leur clan, leur troupeau. La vie du peuple dépend donc de la qualité de ses juges. La situation de ces juges montre toute la complexité de la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu de sa relation avec lui et comment Dieu l'utilise pour ses propres desseins. En effet, les juges sont des êtres imparfaits, conduisant un peuple imparfait, comme nous finalement. Étranges héros de la foi que ces juges, nous dit l'Épître aux Hébreux, ces juges défaillants que Dieu a pourtant fait surgir de son peuple et qu'il a accompagné durant toute leur vie. C'est ce qui est écrit au chapitre 2 du livre des juges. Certains de ces juges, comme Samson, lui étaient même consacrés. On voit toute l'ambivalence entre la foi de ces juges qui n'a jamais totalement disparu, et c'est sur cette base que ces juges ont connu des victoires contre leurs ennemis, et l'attitude de ces chefs de guerre qui ont contribué eux-mêmes au déclin d'Israël en faisant prévaloir leurs intérêts tribaux, familiaux et personnels sur les intérêts du peuple et sur la volonté de Dieu lui-même, en faisant plutôt ce qui leur semblait bon. Et c'est bien le cas de Samson, chef de la tribu de Dan, fils de parents qui connaissaient et respectaient la loi de Dieu, fils d'une mère stérile qui fut visitée par un ange, enfant béni et consacré à Dieu, qui le destinait à délivrer son peuple des Philistins. Et pourtant, dans la lecture de ce matin, que dit Samson à ses parents qui tentent de le dissuader de prendre pour femme une Philistine, issue du peuple ennemi qui oppresse Israël à ce moment-là? Eh bien, Samson dit à ses parents malgré tout et à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Sur quelle base cette femme lui plaît-elle? Il est écrit « quand il la vit et quand il lui parla ». Donc ce qui a plu à Samson, c'est l'apparence physique de cette femme et sa voix. Autrement dit, ses atouts extérieurs. Ce qui est troublant ici, c'est que Samson désobéit à la loi de Dieu, il le sait, et il persiste, même quand il est conseillé par ses parents de faire le contraire. Mais cette décision ne semble pas uniquement être motivée par son désir personnel, mais on nous dit qu'elle vient de l'Éternel. Ça, c'est étrange. Nous voyons cependant dans l'histoire biblique que Dieu permet, voire suscite des événements qui semblent contredire sa loi ou sa volonté pour en fait servir son plan pour l'humanité. Et cet épisode que nous venons de lire a entraîné Samson dans une succession de renoncements, notamment vis-à-vis de son vœu de Naziréa. En effet, quand il est né, je vous rappelle, d'une mère stérile, eh bien, lui et sa mère ont promis, ont fait vœu de Naziréa, ce qui implique certaines obligations, comme celle de ne pas toucher à des cadavres d'animaux, de ne pas boire du fruit de la vigne et de ne pas se raser la tête. Samson commence par prendre pour femme une Philistine et peu à peu, tout au long de sa vie, il renoncera à tous les vœux qu'il a faits. Ceci n'empêchera pas le plan divin de s'accomplir, mais ces renoncements impacteront quand même sa mission. En effet, nous avons vu que le juge est un chef de tribu qui dirige son peuple, et son peuple le suit. Mais nous verrons plus tard dans le récit de Samson qu'au moment où il entre dans la ville de Gaza, donc chez les Philistins, et qu'il ouvre les portes de la ville, en vainqueur, personne ne le suit. Aucune armée israélite ne se lève. Sa tribu ne le suit pas, il se retrouve seul. Alors au lieu d'y voir un signe, d'en tirer une leçon, Samson s'enfonce dans son isolement et dans le péché. Et c'est à ce moment-là que son cœur change vis-à-vis de l'Éternel. en s'éloignant de ses parents et de ce qu'il représentait, c'est-à-dire la connaissance de la loi de l'Éternel, et en se rapprochant de plus en plus des Philistins, notamment par ce mariage, eh bien Samson va s'éloigner de plus en plus de l'Éternel, presque malgré lui. En effet, dans notre passage, il est écrit que Samson a pris cette femme philistine parce qu'il cherchait une raison de dispute pour combattre les Philistins et donc les vaincre. Et ce sera le cas. Au départ, Samson était vraiment bien motivé. Il avait une foi forte en l'Éternel et sa tactique, si je puis dire, était légitime. Mais est-ce que sa motivation de départ, à savoir sa foi, n'a pas laissé place dans son cœur à des désirs charnels, à une impatience, à de l'orgueil? L'idée de penser qu'il pouvait vaincre seul ces Philistins avec sa propre force, sa soif de puissance, la volonté de se venger. Tous ces sentiments que nous pouvons ressentir, mais qui nous placent là loin de la fidélité à Dieu et de la volonté de le servir. Après s'être éloigné de ses parents, Samson s'éloigne donc de l'Éternel en ouvrant son cœur non plus à Dieu comme il l'avait fait jusqu'à maintenant, mais aux femmes philistines. Celle qu'il va épouser sera la première, mais il y en aura d'autres. Ces femmes philistines qui représentent l'image même de l'ennemi et de ses tentations. Et c'est ainsi que l'orgueil et l'arrogance pourront vraiment s'installer dans le cœur de Samson. L'ennemi, Satan, agit de même avec nous, en s'approchant de nous, doucement, gentiment, mais sûrement. C'est pourquoi Pierre, dans sa première épître, nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » N'étant plus poussé par Dieu, mais se confiant davantage en sa propre force, débordant d'arrogance, c'est ainsi que Samson se laissera piéger. On lui rasera la tête et il mourra au milieu des Philistins. Alors, à l'image de Samson, est-ce que nous aussi, nous ne nous retrouvons pas dans cette ambivalence de vouloir faire ce qui plaît à Dieu tout en faisant ou désirant ce qui nous plaît à nous ? Mais sans nous demander si ces deux volontés coïncident toujours ou bien si elles se contredisent parfois. Alors la situation idéale, c'est de faire ce qui plaît à Dieu et ce qui me plaît aussi. Mais l'ordre de nos priorités est-il toujours celui-ci ? Faisons-nous d'abord ce qui plaît à Dieu et gloire à Dieu si cela nous plaît aussi. Si l'on veut être honnête, notre attitude en général consiste à faire ou à choisir d'abord ce qui nous plaît, en espérant très fort et en priant que cela plaise aussi à Dieu. Et c'est pourquoi nous lui demandons davantage de bénir nos projets plutôt que de bénir les siens. Et Jacques nous rappelle au chapitre 4 de son épître qu'au lieu de dire « Voilà, j'irai l'année prochaine dans cette ville et je ferai ceci ou cela », il faudrait plutôt dire « Si Dieu le veut, j'irai l'année prochaine dans cette ville et je ferai ceci ou cela ». Ce qui suppose que nous acceptions que Dieu ne le souhaite pas ou ne le permette pas. Il y a aussi des situations où je fais ce qui me plaît et ce qui déplaît à Dieu ou ne correspond pas à sa volonté. Alors ce qui déplaît à Dieu, nous en avons une vague idée et nous le faisons bien souvent. Ce qui ne correspond pas à sa volonté, Eh bien, ce n'est pas toujours évident de le savoir. Je vous rappelle l'épisode où David, reconnaissant, souhaite construire une maison pour l'Éternel. Ça, c'est un beau projet. Gloire à Dieu. Mais Dieu lui dira, « Non, ce n'est pas toi qui construiras ma maison, mais c'est ton fils, Salomon. » Il faut savoir accepter ces refus de Dieu. Enfin, il peut arriver de faire ce qui plaît à Dieu dans une situation où les choses nous déplaisent. Je fais ce qui plaît à Dieu et cela me déplaît. Et je dirais même plus, je fais ce qui plaît à Dieu même si cela me déplaît. Et là, Dieu a deux marges de manœuvre. Soit il fait comme avec Jonas, qui ne voulait pas aller prophétiser à Ninive et avertir ce peuple impie. Dieu l'oblige, le force, contrecarre ses projets pour qu'il puisse effectivement aller à Ninive. Dieu le fait parfois avec nous. La deuxième marge de manœuvre, c'est de faire ce qui plaît à Dieu et par le travail de son esprit, ce qui plaît à Dieu finit par me plaire, alors que ça n'était pas forcément le cas au départ. Jésus a vécu cette situation peut-être 10 secondes dans sa vie, en demandant à Dieu d'éloigner cette coupe de douleur, et on le comprend. Et après réflexion, de dire que ta volonté se fasse et non la mienne. Effectivement, apprenons-nous aussi à dire, même si ce n'est pas facile, que ta volonté se fasse et non la mienne. Alors quand je dis ce qui me plaît ou ce qui me semble bon, comme disent les juges, il faut s'interroger sur ce que cela signifie et donc sur nos propres motivations, qui bien souvent se limitent à nos désirs, nos passions, nos intérêts personnels. C'est souvent cela que nous mettons au premier plan et comme Samson, nous sommes davantage guidés par nos sens, nos émotions, notre plaisir qu'une véritable foi totalement, et j'insiste sur le totalement, soumise à Dieu. En tout cas, il faut être vigilant. Sinon, comme Samson, le glissement de nos motivations peut se faire sans qu'on le veuille vraiment. D'une volonté de servir Dieu, de faire ce qui lui plaît et nous faire rattraper par nos propres désirs, nos propres intérêts. Et alors, si Dieu ne rompt pas son alliance avec nous, comme Samson, l'Esprit de l'Éternel se retirera. La liberté que Dieu nous offre va de pair avec la responsabilité qui nous en incombe. Et elle nous amène toujours à faire un choix, et donc à opter pour quelque chose et à renoncer à autre chose, car comme l'a dit l'écrivain André Gide, choisir, c'est renoncer, forcément. Alors comment savoir maintenant ce qui plaît à Dieu ? On en connaît les grandes lignes, car nous avons quand même des indications dans la parole. Et je pense par exemple à ce verset de Michée au chapitre 6, verset 8, que je vais prendre le temps de lire. Donc Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors ça paraît clair comme ça. Mais le discerner pratiquement dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas si facile et ce n'est pas si évident. Et je dirais qu'il nous faut toute notre vie pour le discerner, pour le comprendre, faire ce qui plaît à Dieu et qui donc devrait me plaire aussi. Nous ne pouvons le discerner qu'avec une solide connaissance de Dieu, de sa parole, une forte communion avec lui par son esprit aussi une proximité avec les frères et sœurs en Christ pour nous exhorter, comme l'ont fait les parents de Samson, nous conseiller, nous aider, nous reprendre aussi, parfois il le faut. Comme nous l'avons vu avec Samson, la providence divine est parfois difficile à comprendre et à saisir. Il nous suffit de regarder les nouvelles dans le monde et il n'est pas toujours facile d'affirmer que oui, malgré tout cela, la providence divine est à l'œuvre et qu'elle correspond bien au plan de Dieu qui s'exécute sous nos yeux. Pas facile de le dire et de le faire comprendre quand on regarde autour de nous, mais pourtant c'est bien le cas. Les parallèles sont nombreux entre l'histoire de Samson et celle d'Israël, mais aussi la nôtre. Et nous pouvons donc tirer quatre enseignements de cette histoire. Le premier, c'est que Dieu ne renie pas ceux qui lui appartiennent, quoi qu'ils fassent, s'ils ont foi en lui. Notre consécration à Dieu ne nous est pas enlevée, quels que soient nos choix, nos décisions, nos actions, qui nous éloignent cependant momentanément de cette grâce comme Samson, comme il s'est éloigné de ses parents puis de l'Éternel, comme il s'est éloigné de ses parents, de ce qu'il représentait pour se rapprocher des Philistins et ce qu'il représentait. Le deuxième enseignement, c'est que la providence divine s'exerce et les promesses de Dieu s'accomplissent malgré tout. Dans le cas de Samson, il finit par détruire nombre de Philistins. Mais Dieu nous laisse la liberté quant au chemin que nous voulons suivre. Comme en randonnée, il est difficile pour nous de discerner nous-mêmes quel sera le meilleur chemin. Est-ce que ce sera le plus court, le plus facile, le plus beau? On ne sait pas toujours. Il faut donc plutôt lui faire confiance quant au chemin à emprunter et qui sera assurément le meilleur, mais pas forcément le plus court, pas forcément le plus facile. Et je vous renvoie au chapitre 13 du livre de l'Exode pour voir quel chemin Dieu avait choisi pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'amener dans le pays promis en évitant justement cette fois-ci les Philistins. Cependant, et c'est le troisième enseignement, la liberté de choisir son chemin va aussi avec la responsabilité d'assumer ce que j'appelle les dégâts collatéraux. En effet, les choix que nous faisons, les chemins que nous empruntons, les intérêts que nous servons, rappelez-vous Samson, disant à son père « Prends-la pour moi parce qu'elle me plaît à moi », même s'ils ne peuvent faire échouer les plans de Dieu, produisent souvent des dommages collatéraux. Enfin, la parole nous met en garde au sujet du glissement de nos motivations. Les choses que nous réalisons par fidélité à Dieu, les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons sur la base de notre foi peuvent au bout d'un moment répondre à d'autres intérêts et à d'autres motivations si nous n'y prenons garde. Rappelez-vous les juges, chez eux chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est comme ça que se finit le livre des juges. Nous avons du mal à apprendre et restons obstinément dans le cycle péché, oppression, ou je dirais pour nous problème, repentance et délivrance. Et je citerai Samuel Cabot qui nous a dit dans une prédication il y a quelque temps, « La grâce de Dieu ne consiste pas à pouvoir toujours recommencer les mêmes erreurs. » Il nous appartient donc de faire ce choix, soit entre ce dernier verset du livre des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon, ou alors cette parole que je vais lire maintenant, Parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je vous encourage donc à faire le bon choix, non pas celui de la solitude pour faire ce qui nous plaît, ce qui nous semble bon, mais comme Jésus, celui de la proximité avec Dieu pour faire ce qui lui est agréable. Amen.